Issu d'un village du sud-ouest de la France, l'enfance de Vex Van Eyck a été bercée des contes et légendes du folklore de sa terre natale. Artiste désormais accompli dans le domaine des représentations bidimensionnelles oniriques, il expose une de ses fresques du 27 juin au 6 septembre sur le 45e mur d'Épinal. C'est à cette occasion que je suis allée à sa rencontre et que nous avons pu échanger quelques mots. Mais avant toute chose, bonjour Vex, comment ça va ?
Bonjour, ça va, et vous ? Et toi ?
Oui, ça va très bien, merci. Alors, j'ai envie qu'on commence par le commencement, comme d'habitude, à savoir ton parcours est-il fait de tours et de détours ?
Oui, on peut un peu dire ça. Je suis cuistot, si vraiment on doit prendre ma formation initialement. C'est un peu triché, c'était très jeune, mais c'est vraiment mon cursus initial. J'ai ensuite bifurqué par de la pré-impression, imposition et graphisme offset. Donc j'ai quand même appris des compositions et tout ça, mais c'était vraiment du graphisme en lycée pro. En l'occurrence, c'est là par contre que j'ai eu la chance d'avoir un prof qui faisait de l'histoire de l'art. Alors à un niveau pro, de lycée pro, mais en l'occurrence qui était très compétent, en tout cas qui m'a donné vraiment le goût de l'histoire de l'art en particulier. Ça me fascinait déjà, mais il a bien appuyé le truc. Par la suite, j'ai entamé un BTS très courtement, un mois ou deux, pour basculer vers ce qui m'attirait le plus, à savoir la peinture et en parallèle le tatou, que j'ai commencé à la vingtaine à peu près. Tout a commencé professionnellement plus ou moins sur les mêmes années. Ça s'est un peu chevauché, aussi bien la peinture d'un côté que le tatou à cette époque-là. Donc voilà pour les tours et détours, grosso modo.
Et si on parlait de ton village d'origine, qui a certainement imprégné l'onirisme de tes travaux, raconte-nous à ce propos une de ces légendes qui t'a particulièrement marqué.
Je sais pas si j'aurais une légende très précise comme ça, mais c'est plus l'enfance que j'ai eue, mais l'enfance au sens large aussi, qui m'a beaucoup influencé. Et j'avoue que c'est une période que je regarde avec nostalgie, alors pas pour dire c'était mieux avant, mais parce que clairement les enfants c'est cool, c'est innocent, ça a quand même moins de charges pénibles au quotidien déjà, et puis il y a ce truc justement de l'onirisme naturel chez les enfants, il y a vraiment un imaginaire, il y a vraiment un monde fait que un bout de bois devient une épée, que un arbre devient une échelle, que un trou devient une cabane, enfin tous ces trucs, c'est quand même assez fascinant. Donc voilà, je viens de Dordogne précisément, et c'est une région qui était empreinte de la préhistoire déjà, parce qu'il y avait énormément de grottes, de fossiles, de silex taillés et tout ça, et aussi très médiéval. On avait des châteaux à peu près sous chaque galet. Donc tout ça crée vraiment un truc qui ressemble vaguement à de la fantaisie, presque comme des cartes magiques, quoi. C'est déjà le cadre était déjà là, sans compter que c'est très nature, donc beaucoup d'animaux aussi. Tout ça mélangé, ça a donné ce que j'essaie de traduire aujourd'hui, ou en tout cas ce qui m'a influencé aujourd'hui.
En tant qu'artiste, y a-t-il peut-être des œuvres d'artistes connus qui t'ont marqué ? Une œuvre que tu peux nous citer ?
Une œuvre ? Ça c'est pas facile parce que par définition j'aime bien la peinture, j'aime bien l'art de manière générale, mais si je dois en choisir vraiment une... qui m'a marqué, j'essaie de réfléchir à un truc plutôt enfant. Alors je vais parler d'un livre qui j'ai même plus le nom de l'illustrateur, mais il y a un livre qui m'a énormément marqué, pour le premier souvenir que j'ai en tout cas d'un truc comme ça très fort, très marquant. Ça s'appelle Le Grand Livre des Animaux, et en fait c'est vraiment une compile, une encyclopédie de tous les animaux. C'est je crois peint par le même artiste dont j'ai plus le nom parce que j'étais enfant. En revanche c'est vraiment une énorme bible, et c'était peint. Donc les illustrations étaient vraiment faites de peinture, parce que pas de photos à l'époque, ou en tout cas pas à l'époque de l'édition. Et je pense que ce serait ça. Et après, pour un artiste plus connu, j'imagine que assez jeune, j'avais eu la chance de voyager en Hollande du fait de mes origines, et j'avais vu des tableaux de Bosch. Donc je sais pas si j'ai souvenir d'un précisément en Hollande de l'avoir vu, mais je sais que c'est un artiste qui m'avait marqué, en tout cas assez jeune déjà. Mais voilà, j'ai pas de souvenir précis. Après, il y a le Jardin des Délices qui viendrait en tête spontanément à tout le monde, y compris à moi.
Quels sont les médiums et les supports que tu privilégies ?
Alors, que je privilégie, ça va pas être dur, c'est la toile. Genre, c'est vraiment une réponse facile, parce que je m'épanouis beaucoup, beaucoup, beaucoup sur mon travail d'atelier, surtout ces dernières années, deux, trois dernières années où j'ai pu m'y concentrer plus, m'y consacrer aussi plus d'ailleurs. Les deux sont vrais. Et du coup, je dirais la toile. En revanche, c'est vrai que j'ai été longtemps multi-support. En passant aussi par la peau, mais c'est vraiment deux là pour le coup. Autant je peux faire des rapprochements assez faciles entre la toile et le mur, en tout cas plus évident, autant la peau, la toile, le mur, il y a quand même une distance, même si les univers se recoupent dans ce que je voulais proposer en tatou. Enfin, c'était clairement, il y avait un espace, et je travaillais qu'en noir et blanc en tatou, et j'ai aussi voulu garder une scission entre les deux, la peinture étant beaucoup plus personnelle et introspective et un peu plus intime, le tatou étant destiné à quelqu'un, même si évidemment c'est, j'imagine, une déformation naturelle, j'y mettais de mon influence et de ma façon de travailler, mais j'essayais d'adapter un peu plus mon travail à la peau. Et donc, pardon, je digresse, mais première et évidente réponse, la toile, avant tout, voilà.
Eh bien justement, tes toiles, parlons-en, car j'ai fait un tour sur ton compte Instagram Vex Vanillic. Tu proposes un certain nombre, une diversité d'œuvres et de thèmes. Je crois remarquer que tu as des thèmes qui m'évoquent les vanités, des textures qui ont quelque chose d'ancien, et même une colorimétrie qui ressemble beaucoup à des tableaux qui ont vieilli. As-tu une fascination pour les peintres d'un autre temps ?
Complètement. Mais genre, tellement. Ce serait excessivement malhonnête de pas répondre par la positive à cette question. Ouais, je suis complètement fasciné. C'est aussi pour ça, j'imagine qu'il y a une forme de volonté de mimétisme. Il y a aussi un truc sur la notion du temps et sa relativité que je trouve intéressante. Le temps, il se comprime. C'est vraiment, c'est relatif, quoi. Il y a vraiment ce truc de, on se sent vieillir de plus en plus, les années passent plus vite et tout ça. Et ça, c'est assez mécanique, en fait. Proportionnellement, un an quand on a 5 ans, c'est un cinquième de sa vie, à 20 ans, un vingtième, et ça ne fait que s'accélérer. Donc je sais que la timeline et l'horloge interne fait que le temps s'accélère et se comprime. Et puis en regardant plus loin sur l'histoire de l'humanité, et sur l'histoire même de la planète, du cosmos, et on va pas digresser, je suis pas un scientifique, mais on comprend bien que c'est très relatif comme notion, le temps. Et puis il y a aussi que vieillir, et en l'occurrence même vieillir un support, c'est très vrai pour les murs aussi d'ailleurs. J'aime beaucoup moi les murs que j'ai pu faire et qui prennent cher avec le temps, la pluie, le soleil et tout ça. En fait, si ça vieillit, c'est qu'implicitement on peut s'imaginer que c'est vivant, que ça a eu un début et que ça va vers une fin. Et je trouve que ça rend l'œuvre et le support et le ça rend le truc vivant, ça rend l'objet vivant. Et du coup, alors métaphoriquement, mais j'aime bien cette idée-là. Je trouve ça chouette. Je trouve ça un peu poétique, avec des gros guillemets.
Si on parlait de poétique et d'onirisme, j'ai envie d'aborder les univers et les thèmes que tu abordes, qui me semblent être principalement aquatiques quand j'ai fait un tour sur ton Instagram. Beaucoup de poissons, des lièvres qui sont liés à des poissons, dont le lièvre qui a un pelage qui évoque les couleurs de la peau d'un maquereau, ou des oiseaux aquatiques comme des martins pêcheurs. D'où vient en fait cette appétence pour ce monde aquatique ?
Alors je sais pas trop, mais je sais qu'il y a ce côté, je crois que c'est un peu la traversée du miroir. Il y a ce côté miroir d'eau, vraiment au sens littéral. Il y a ce truc aussi que dans l'eau, c'est de manière générale cet élément-là, et la façon dont on peut l'approcher nous en tant qu'être humain, il y a ce côté un peu extraterrestre de la Terre, un peu espace de la planète, enfin espace cosmos de la planète, quand on pense aux abysses évidemment, mais même tout court sous l'eau. Et puis je trouve ça assez marrant de parler d'un poisson qui nage. Quand on le voit nager, effectivement il nage, hein, c'est mécaniquement vrai, mais il a ce truc de plus de lévitation, lui, sous l'eau. Nous on nage, parce que nous on patauge même, mais lui il est vraiment dans une espèce de lévitation, il est dans son élément, et du coup je trouve ça par définition absolument naturellement surréaliste. Ça permet aussi d'avoir des formes, des couleurs et des diversités de motifs au sens propre, qui sont très variés, qui sont et qui me fascinent. Et puis, assez pragmatique. Je crois qu'on en revient un peu à l'enfance, mais j'ai toujours beaucoup pêché avec mes frangins et mon grand-père surtout, mais beaucoup avec mes frères. C'était quelque chose qui nous a longtemps, enfin, qui nous lie encore d'ailleurs, mais un peu moins aujourd'hui, mais qui nous a longtemps liés. Et du coup, il y a peut-être aussi ce truc un peu de symbolique du poisson, parce que la pêche et parce que c'est quelque chose lié à mon enfance et à cette fratrie qui m'est chère encore aujourd'hui. Et qui a beaucoup compté dans mon existence et ma construction. Voilà, pour être, c'est pas tout à fait exhaustif, j'imagine que j'oublie des trucs, mais...
Au-delà, justement, de la thématique très aquatique, tu as un style très particulier que je qualifierais de vibrance surréaliste, car en effet, ce ne sont pas que de simples poissons, mais ils ont quelque chose de plus. Je partagerai pour les auditeurs dans le podcast des représentations, mais il y a aussi le lièvre et la tortue, qui est un lièvre avec une carapace de tortue.
Il est EEST. Il est la tortue. Oh, les jeux de mots à papa que je mets dans mes titres, c'est vraiment un délire. Mais oui, effectivement, oui, il y a une dimension surréaliste. Curieusement, alors aujourd'hui, je pense que je le maîtrise un peu mieux. Initialement, je sais pas. Alors si, il y avait le côté fascination pour les univers fantastiques et le fantastique était pour moi une continuité du surréalisme, c'est très lié d'ailleurs. Mais il y avait aussi un truc, je pense, de assez naïf, de pas savoir le représenter tout à fait correctement, vraiment par question technique, et que ça a fini par imprégner ma façon de travailler, de représenter, de dessiner, et du coup, petit à petit, ça a donné. Je dirais pas jusqu'à dire que ça part d'une erreur, mais peut-être de certaines maladresses, et peut-être de certaines naïvetés, en tout cas, vraiment de dessin, je pense. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins vrai, évidemment, heureusement, parce que bah, on apprend quand même. Mais du coup, oui, il y a ce côté surréaliste. Et puis après, oui, bah, comme je te dis, le fantastique et le surréalisme de manière globale, et tout ça, l'onirisme, tous ces champs lexicaux, j'avoue que c'est quelque chose qui me fascine. Mais c'est presque, peut-être que le mot va paraître fort, mais en vrai, pour moi, il y a un côté anxiolytique presque. Je trouve ça apaisant, moi, ces trucs-là. Bon, en même temps, ouais. Par le contexte actuel global, il faut dire que les univers fantastiques sont nettement plus rassurants. Mais au-delà de ça, j'entends. Même dans l'enfance, encore une fois, c'était. Ouais, il y avait ce côté très rassurant pour moi. Donc, j'imagine que spontanément, j'ai envie d'aller vers ça, de raconter ça et de le partager aussi, quoi.
Vu que tu décris un petit peu ces univers fantastiques comme un anxiolytique, je suppose que c'est un moyen d'évasion à tout ce que représente en fait notre monde anxiogène. Qu'est-ce que ça procure pour toi, la création ?
Ah ben, encore une fois, le mot est pas trop fort, c'est vraiment anxiolytique, mais genre littéralement, sans dire que je souffre de troubles particuliers, j'aurais pas la prétention de ça, ou en tout cas pas de m'auto-diagnostiquer, mais c'est sûr que c'est, il y a un côté presque thérapeutique, c'est vraiment viscéral, c'est nécessaire. Et il y a aussi c'est aussi un bon moyen de communiquer. Je trouve que c'est vraiment des fenêtres ouvertes sur de l'échange, mais aussi sur laisser libre cours à de la narration pour les regardants, pas que pour moi qui le propose. Et souvent, du fait que la technique et que la représentation soient quand même figuratives et entre guillemets tendent vers du bienfait, je mets des très gros guillemets à tout ça parce que le bienfait, le malfait dans l'art, c'est pas quelque chose qui me tient à cœur. Mais dans ma représentation, il y a quelque chose de l'ordre du bien représenté. Ça permet aux gens, même sans instruction, sans référence artistique, j'entends, de pouvoir s'approprier, se raconter leurs propres histoires, et j'imagine que je les invite un peu à ça, et à rentrer vraiment dans cette fenêtre-là, quoi, que j'ouvre à chaque fois que j'essaie de proposer une peinture. Donc voilà, ce que ça pourrait représenter, tout ça, pour moi.
Quand je suis arrivée, tu étais en train de peindre un poisson. Est-ce que pour tes créations, tu t'imposes des contraintes ou est-ce que tu te donnes des sources d'inspiration ?
Alors, pas toujours, mais oui, évidemment, en fait, c'est plus un référencement global qui se cumule, je pense, avec les années. Je pense que ça, c'est vrai pour tous les créatifs, tous les artistes. Et y a un truc qui peut m'amuser parfois, assez souvent, en fait, ça revient, c'est de travailler sur des jeux de mots un peu ou des expressions idiomatiques françaises ou étrangères, hein, mais c'est quelque chose que j'aime bien, les jeux de mots. Ils sont pas toujours de très bon goût, hein, je dois bien admettre, hein, des fois c'est un peu les jeux de mots à papa, mais ouais, il y a ce côté où j'aime bien quand même jouer avec les titres, jouer avec les mots, jouer avec le verbe. On en revient à une cette idée un peu de poésie, d'onirisme, de fable aussi, où il y a quand même le texte ou le sous-texte en tout cas, et je tiens pas à faire d'illustration, mais justement j'aime bien l'interpréter de manière un peu absurde, ou le mettre, ou justement interpréter une expression de manière littérale. Je pensais à noyer le poisson tout à l'heure, et voilà, c'est quelque chose sur lequel j'ai déjà travaillé, fait des recherches. C'est pas la seule expression, j'en ai fait plein, j'ai fait des rébus aussi. Non mais c'est vraiment, je joue comme un enfant, hein. J'ai 4 ans quand je peins, hein. Attention quoi. Mais en vrai ça m'amuse beaucoup. C'est pas toujours de bon ton, mais j'essaie de au moins rattraper. Alors c'est jamais potache par contre, c'est toujours des choses un peu mignonnes, un peu rigolotes, ou vraiment des jeux de mots un peu qui se veulent un peu poétiques. Mais j'essaie de rattraper le truc avec au moins une peinture qui soit justement plutôt élégante et intéressante à regarder, en tout cas à défaut. Mais voilà, ouais, ça fait partie en tout cas des références que je peux avoir parmi flopée de références.
Donc le point d'amorce, le point de départ serait un jeu de mots, du moins pour la majeure partie de tes créations. Et ensuite, comment tu les élabores ? Est-ce que tu peins directement sur le mur ? Est-ce que tu y vas, on va dire, presque en freestyle? Est-ce que tu laisses ta main se promener au gré de tes envies et de ta création?
Alors, ça dépend. Ça dépend, c'est un peu oui et non à cette question. Souvent, pour les muraux particulièrement, c'est vraiment teinté des deux. Parce que quand on... c'est pas toujours vrai, mais la plupart du temps sur les muraux, on nous demande quand même un sketch préliminaire, parce que c'est dans l'espace public, parce qu'il y a des contraintes, voilà, c'est pas des commandes, c'est un peu justement entre la commande et le libre, la libre expression carte blanche, mais voilà, donc très souvent il y a quand même un sketch de base. Cependant, je fais partie de ceux qui ne font vraiment pas de mise au carré, qui ne projettent pas non plus, et quel que soit le format, du très grand à très moyen, je fais tout à main levée, je dessine tout au feeling, et j'ai tendance à faire évoluer énormément la peinture finale sur le mur en fonction de la composition, en fonction de la forme que ça prend, en fonction des contraintes aussi des fois, parce que les contraintes techniques, le support, le mur qui boit, il pleut, ça a coulé, enfin bon bref, les murs c'est toujours, c'est pas du tout maîtrisé comme une toile. Genre, voilà. Et du coup tous ces aléas je les aime bien, sans compter que ça me donne aussi, il y a quelque chose sur le mur où la dimension du mur fait qu'on peint avec vraiment l'ensemble du corps. C'est une énergie qui est pas la même, c'est vraiment une dynamique qui est pas la même, c'est des mouvements qui sont pas les mêmes. Et ça c'est bien, j'aime bien pouvoir le faire, du coup en profiter et le faire vraiment de manière un peu plus spontanée. Donc il y a ça, et aussi souvent particulièrement sur les très gros projets, c'est un travail manuel, c'est un peu un labeur. C'est des équipes, il y a de la manutention au sens littéral, trimballer des objets, manipuler des machines, enfin. Et cet aspect labeur et tout ça fait que j'aime bien aussi que ce soit fait un peu dans l'instant, dans une forme c'est un effort commun, c'est un effort partagé, voilà. Du coup, sur mur, c'est un peu des deux. Et sur toile, c'est un peu pareil, c'est un peu des deux. J'ai tendance, par contre, sur toile à faire des recherches. C'est un format qui est plus fini et qui est plus défini, qui est plus arrêté aussi. Je veux dire physiquement. Et du coup, j'ai tendance à étudier mieux mes compos, mais curieusement, je pousse moins mes sketchs. Alors, j'étudie plus ma composition. Je suis très attentif à où je vais placer mes éléments et comment je vais composer mon image. En revanche, je vais souvent moins détailler mon sketch et je vais plus le détailler directement en peignant sur le mur. Alors que je vais souvent prévoir des études un peu plus précises pour donner une idée de où je vais pour un mural, et composer sur le mur. Donc pour le coup, il y a un truc inverse que j'avais d'ailleurs pas fait le rapprochement avant d'en parler maintenant. C'est sympa.
La peinture murale est enfin... le mur d'Épinal. Est-ce que tu peux nous décrire à quoi va ressembler ta peinture, ou à quoi ressemble la peinture pour les auditeurs qui nous écoutent après le 27 juin ?
Alors, actuellement, elle ressemble... Alors, elle ressemble pas à ce qu'elle va être à la fin, mais elle a pris un bon coup déjà, au premier jour, c'est bien. mais la vitesse fait un peu partie du process pour être tout à fait honnête, dans cette idée d'énergie, d'être vraiment dans cet élan de peindre sur mur, ça me permet de bosser un peu efficacement. Mais du coup, à quoi ça va ressembler? Sans surprise, ça va être un poisson, voilà, puisque de toute façon, voilà, j'ai pas envie de me justifier. Ça va être un poisson, qui est en équilibre et qui est pour le coup très inspiré justement des natures mortes, j'en parlais tout à l'heure, parce que j'ai trouvé quelque chose. Alors, je suis très influencé par la peinture flamande, et dans les natures mortes flamandes, il y avait cette volonté d'exercice de style, vraiment, où c'était bien représenté différents objets, les brillances, la pruine sur les raisins, les reflets, la réfraction, la réflexion. Donc tout ça, c'était un exercice de style, certes. Il y avait aussi l'allégorie et les métaphores sur la vie, la mort, sur tout ça. Donc ça, c'est les poncifs qui sont relativement connus de la nature morte. Mais en les regardant attentivement, justement, parce que j'ai déjà trouvé ça beau et que voilà, j'ai aussi remarqué que souvent, c'est quand même précisément composé de manière assez artificielle, en fait, puisque tous les objets étaient disposés pour être de tel reflet, de tel machin, et ça rend la scène assez absurde. En fait, c'est pas du tout naturel, quoi. On appelle ça une nature morte, je trouve ça n'a aucun sens. Tout est bien choisi, posé, mais c'est posé et c'est vraiment disposé. Et du coup, ça m'a amené à travailler sur ça, sur l'idée de composer de manière un peu non-sens, un peu posé comme ça, là, c'est un peu de manière absurde. Et du coup, en allant plus loin, je suis allé sur des équilibres qui tiennent pas la route. Et du coup, j'ai voulu poser des équilibres qui n'en étaient pas, mais qui quand même fonctionnent. Ça fait évocation aussi aux cairns, c'est les empilements de pierres qu'on peut trouver souvent sur les chemins de randonnée et tout ça. Et donc, il y a ce poisson qui va être en équilibre sur des cailloux avec d'autres éléments et qui est posé sur une table de grès, plus ou moins, quoi. En tout cas, inspiré des tables de grès qui font vraiment écho pour le coup aux natures mortes classiques. Et pareil pour les natures mortes, là en l'occurrence, mon poisson sera complètement vivant, parce que c'est un détail, hein, mais en anglais, les natures mortes, ça s'appelle still life, et ça veut dire toujours en vie, ce qui est assez l'exact parallèle et parabole totale de nature morte. C'est l'exact opposé, je trouve ça génial que ce soit une oxymore pareil.
Est-ce que tu attends quelque chose en particulier de cette exposition à Épinal?
Je sais pas, c'est vraiment... C'était vraiment, déjà c'est toujours un plaisir pour moi de bosser en peinture. Là je sors d'une préparation d'expo, donc j'ai passé beaucoup de mois à l'atelier. Alors j'adore ça, hein. Je trouve ça génial, j'y passerai ma vie. Mais c'est cool aussi de pouvoir bouger, c'est cool aussi justement de changer un peu d'énergie, encore une fois, de dynamique en tout cas. Je sais pas, c'est toujours très grisant de rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer de nouveaux interlocuteurs, professionnels ou non, des entre guillemets regardants, spectateurs, publics. Je mets des gros guillemets à tout ça, mais vous voyez l'idée. Et puis de nouveaux endroits, littéralement, avec à chaque fois des nouvelles rencontres et atmosphères, ambiances, habitudes, culture locale. Voilà, alors c'est on va pas dire que c'est un voyage à chaque fois, hein, mais c'est quand même c'est de nouvelles choses, ça, et c'est cool, ça dynamise l'aspect créatif potentiel et juste le quotidien l'aspect humain. Donc voilà ce que j'en attends.
On peut toujours retrouver tes œuvres sur ton compte Instagram Vex Van Leek, mais tu as peint sur plusieurs murs que l'on peut voir à travers la France. Est-ce qu'il y a une cartographie de tes œuvres?
Non, je suis désolé, non. Je saurais plus. Alors, je sais qu'il y en a quelques-unes, pas mal, qui sont toujours à Grenoble. J'y ai beaucoup travaillé. C'est, je pense, là que j'ai réalisé ma première vraie grosse fresque murale. C'était vraiment grand. De ce fait plutôt. J'ai eu la chance d'y revenir pour différents projets au fil des années, donc il y en a quelques-unes là-bas. Après, j'en ai eu un peu à droite à gauche. Il y en a à Bayonne, il y en a à Paris, il y en a, je saurais même plus vous dire, à Vivoin, là, récemment. Je vais travailler au Mans, là, prochainement. Je pourrais plus faire le compte, j'avoue. Je reviens de Monaco, là, mais c'était des œuvres éphémères, là, en l'occurrence. C'était pas des œuvres pérennes, mais j'ai peint là-bas il y a très peu de temps. Voilà, pour citer que ça. Et j'en ai fait beaucoup en italique, heureusement aussi, mais plus jeune. Ça fait un petit moment que j'y suis pas retourné. J'ai eu la chance de peindre en Roumanie, j'ai eu la chance de peindre au Vietnam, en Thaïlande, voilà. En Macédoine aussi, ouais. Enfin, voilà, j'en oublie certainement, je suis navré. Mais oui, c'est cool. C'est, en l'occurrence, ça fait écho à la question précédente. Et c'est toujours vraiment une chance de voyager grâce à ça. J'avoue que d'ailleurs, j'ai un peu du mal à prendre des vraies vacances parce que j'ai toujours voyagé ou pris des vacances, pris l'air grâce à la peinture et grâce au travail. Ou presque toujours. Et du coup, c'est un peu difficile de le dissocier maintenant. J'apprends à le faire, puis je vieillis, donc maintenant j'aime bien. mais pendant longtemps, en tout cas, j'avais du mal à le dissocier.
Tes poissons ont voyagé à travers les mers et à travers les terres. Puissent-ils encore continuer? Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite?
Qu'est-ce qu'on me souhaite? Alors, j'espère de pouvoir continuer à faire évoluer mon travail, en fait, surtout, à titre perso, parce que je pense que c'est une recherche d'une vie. Et que je suis pas sûr qu'il y ait un aboutissement à ça, donc de pouvoir avoir la chance de continuer ça déjà, cette recherche là et ce travail là, c'est vraiment ça, c'est juste de pouvoir me permettre de continuer de peindre d'une façon ou d'une autre. J'ai pas de grosse véhémence yacht et autres, mais juste avoir le temps de m'offrir et de me consacrer à la peinture, j'avoue que ça c'est le meilleur truc qu'on puisse me souhaiter. Après, du reste, j'ai pas de grandes ambitions au-delà de vivre le plus longtemps possible exclusivement de la peinture.
En tout cas, il est toujours possible, Vex, de voir ton poisson sur le mur d'Épinal jusqu'au 6 septembre. On te souhaite vraiment le meilleur et merci beaucoup de m'avoir accordé le temps de cet échange.
Non, merci à vous, c'était un plaisir. C'était cool. Et merci pour l'accueil, merci au mur, à Épinal et à la radio. Merci encore.